L'accord de Bougival publié au Journal officiel, cela va permettre au Sénat d'examiner la proposition de loi organique permettant le report des élections provinciales, a expliqué Manuel Valls. L'actualité politique, ce sera aussi le rendez-vous du lundi, la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. De l'émotion, du glamour, mais aussi des projets, Miss Calédonie 2025 sera notre invitée. Juliette Collet a été élue samedi soir. En métropole, François Bayrou engagera la responsabilité de son gouvernement dans quelques heures. Les LR et le Rassemblement National réunissaient leurs troupes ce week-end. Et puis à l'étranger, la Russie a mené le plus important raid aérien sur l'Ukraine depuis le début de la guerre. 800 drones ont touché le territoire ukrainien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'actualité sportive, ce sera dans le Mac des Sports du lundi. Bonjour Michael.
Bonjour Jean-François.
Avec une belle actualité rugby, nous évoquerons évidemment l'ensemble des résultats sportifs. Mais en rugby, il y avait un événement, c'était la reprise du top 14.
Oui, c'est reparti sur les chapeaux de roue pour le championnat de France élite. Les clubs du top 14 en ordre de bataille. Le Stade Toulousain qui a déjà répondu présent. Le triple tenant du titre s'est imposé à Clermont 34 à 24 pour se positionner déjà dans le trio de tête derrière Lyon et le Stade Français. La lutte s'annonce encore serrée pour la conquête du bout.
Et pendant ce temps-là, l'équipe de France féminine continue son beau parcours en Coupe du Monde.
Les Françaises sur un sans faute, reçues 3 sur 3 après une victoire large face aux Sud-Africaines 57 à 10. Les Bleus retrouveront les Irlandaises en quart de finale dimanche prochain, alors qu'une confrontation contre les redoutables Anglaises se profile déjà à l'horizon dans le dernier carré.
Et le rugby lancera aussi question dans la partie du Mac des Sports consacrée à l'actualité en Calédonie.
Oui, les demi-finales du championnat senior à 15 avaient lieu vendredi. La finale se jouera le 20 septembre. Entre le Mont d'Or et l'Olympique. Les initiatives pour la jeunesse à Nouméa Païta étaient également organisées ce week-end. Nous ferons également le bilan de la tournée des moins de 16 ans en Nouvelle-Zélande au collège Lindisfarne. Nous passerons en revue cette actualité de l'Ovalie calédonienne avec Jean-Louis Carrigonde, le président de la Ligue calédonienne.
Ce sera donc dans le Mac des Sports à retrouver dès la fin de ce journal. Manuel Valls craint que la crise politique nationale ne fasse dérailler la mise en œuvre de l'accord de Bougival. Le ministre des Outre-mer était l'invité du grand jury RTL au lendemain de la publication au Journal officiel de l'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, signé le 12 juillet à Bougival, Elisabeth Noir.
Pour Manuel Valls, cette publication marque une étape importante puisque l'accord continue de progresser vers sa mise en œuvre concrète. Il indique que sa première conséquence immédiate est de permettre au Sénat d'examiner la proposition de loi organique permettant le report des élections provinciales en juin 2026. Au grand jury RTL, il lui a été demandé s'il redoutait que l'accord de Bougival disparaisse avec la situation politique.
Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs d'une certaine manière pratiquement le seul risque et de taille, le seul danger au travers du chemin de la mise en œuvre de l'accord de Bougival. C'est que la situation politique nationale fasse dérailler les engagements que nous avons pris, c'est-à-dire le fait que le Sénat, au cours d'une session extraordinaire à la fin du mois de septembre, repousse les élections provinciales au mois de juin, permettant la révision de la Constitution cet automne, et la tenue d'un référendum au mois de février, permettre aux Calédoniens de s'exprimer sur cet accord.
Le ministre des Outre-mer a également jugé possible la réforme constitutionnelle, en ajoutant qu'il n'y avait pas d'autre voie parce que des risques de guerre civile existent toujours en Nouvelle-Calédonie. Manuel Valls s'interrogeait également sur l'attitude du FLNKS. Il lui a été demandé s'il pouvait mettre en œuvre l'accord de Bougival sans le FLNKS.
Moi, je ne veux pas passer du FLNKS, je ne veux pas faire un accord contre le FLNKS, mais d'abord, la délégation du FLNKS, amenée par Emmanuel Djibaou, avait donné son accord pour présenter et défendre cet accord signé à Bougival le 12 juillet dernier. Ensuite, des organisations historiques indépendantistes comme le PALICA ou l'UPM soutiennent cet accord et le soutiennent pas uniquement en l'ayant signé, le soutiennent tous les soirs en Nouvelle-Calédonie. Il y a une immense majorité des Calédoniens qui est favorable à la paix civile, y compris chez le peuple kanak. Mais moi, je suis respectueux du FLNKS, même s'il a changé. Le FLNKS est aujourd'hui a vu entrer des petites organisations radicales qui ont toujours été contre les accords de Matignon ou de Nouméa. L'UC, qui est la vieille formation calédonienne, a fait rentrer la CCAT, ces groupes radicaux, sur le terrain. Donc, se retrouve face à des contradictions. Mais j'ai discuté avec le FLNKS, avec les délégations du FLNKS à Nouméa il y a quelques jours à peine, et je continuerai ce dialogue. Et Emmanuel quand Valls, le Sénat et l'Assemblée auront fait en sorte que les élections provinciales soient renvoyées au mois de juin, je pense que nous pouvons trouver des accords pour préciser, éclairer, aller dans le sens d'un certain nombre d'attentes du FLNKS. Mais je n'oublie pas tous les autres signataires, indépendantistes ou partisans de la France, qui soutiennent cet accord.
Et dans cette interview, Manuel Valls a également fait une annonce en évoquant le soutien de l'État à la Nouvelle-Calédonie. Il a confirmé le versement dès cette semaine de la deuxième tranche du PGE, le prêt garanti par l'État.
le cabinet du Premier ministre a arbitré un nouveau soutien, une nouvelle aide des prêts au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cela sera signifié demain matin, ça doit être 240 millions d'euros. Et nous avons fléché, à ma demande, 21 millions d'euros vers les communes, précisément pour aider dans deux domaines, celle-ci, le transport scolaire, parce qu'il y a des gamins en Nouvelle-Calédonie qui marchent des heures ou qui ne vont plus à l'école, et surtout les cantines scolaires, parce qu'il y a aussi des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Donc tout est lié, l'accord politique, la paix civile et la reconstruction économique et sociale, voire des dossiers aussi importants que la reprise des usines du nickel. Donc moi j'ai mis toute mon énergie, je pense que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie est très important, pas seulement pour les Outre-mer, mais pour, au fond, notre mémoire collective. Nous devons sortir de ce processus de décolonisation, donc c'est important que ce dossier de la Nouvelle-Calédonie, j'en appelle d'ailleurs d'une certaine manière, ça fait partie aussi des réflexions par rapport à la situation politique, j'en appelle chacun à une très grande responsabilité, mais je pense que si nous franchissons cette étape et qu'il y a un nouveau gouvernement, nous pourrons atteindre les objectifs qu'on s'est donnés pour la Nouvelle-Calédonie.
Manuel Valls, très présent dans les médias, il publie également aujourd'hui une tribune dans le journal Le Monde intitulée « La Nouvelle-Calédonie mérite mieux que l'impasse prolongée ». Le ministre des Outre-mer y défend bien sûr l'accord de Bougival en parlant d'une opportunité historique, d'autant plus précieuse que l'instabilité politique nationale menace la continuité et l'attention soutenue qu'exige ce territoire. La Nouvelle-Calédonie, écrit-il, mérite mieux que l'impasse prolongée. Elle mérite un accord qui lui permette enfin d'avancer.
Et on poursuit ce journal avec le rendez-vous du lundi. C'est bien sûr Elisabeth Noir, votre chronique de la semaine écoulée.
Il faut qu'on avance. C'est le mantra de Manuel Valls depuis des mois, à tel point qu'il est allé trop vite à Deva en essayant de faire passer son projet d'indépendance association, qu'ont refusé les loyalistes et le Rassemblement. Mais ça n'a pas découragé le ministre des Outre-mer, qui a continué d'avancer après même que le président de la République lui ait repris le dossier calédonien. Et ce fut l'accord signé au bout de la nuit à Bougival, un accord qualifié d'historique, et pour lequel, depuis, le ministre se bat bec et ongles. Il s'agace, après le rejet par le FLNKS, d'un accord que sa délégation avait pourtant signé. Mais pour autant, il ne lâche rien. Et il répète à l'envi qu'une majorité des groupes politiques, dont une grande partie des indépendantistes, soutient cet accord qu'il faut désormais mettre en œuvre. Et il s'énerve quand on dit que l'accord est mort-né ou qu'il faut sauver Bougival. C'est faux, affirme le ministre d'État, qui déclare qu'il n'y a pas d'alternative et qui met en place séance tenante le comité de rédaction de la loi constitutionnelle. Il y a une quinzaine de jours, il a quitté Nouméa en proclamant que l'accord de Bougival est conforté et que nous avons considérablement avancé. C'est, je vous le disais, le leitmotiv de Manuel Valls. Il faut qu'on avance. Au point qu'il est presque dans le déni quand on l'interroge sur les conséquences de la crise politique nationale sur l'accord de Bougival. Pour lui, l'État devra, quoi qu'il arrive, assurer la continuité des échanges et du cap tracé. Et il ajoute que la chute du gouvernement pourrait seulement entraîner un décalage de quelques jours ou de quelques semaines, mais sans remettre en cause le processus engagé. N'empêche, il a beau afficher la plus grande assurance, il est prudent. Et à la veille de la chute du gouvernement dont il est le numéro 3, Manuel Valls veut avancer en faisant publier au journal officiel l'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie signé le 12 juillet à Bougival. Une publication qui marque, selon lui, une étape importante puisque l'accord continue de progresser vers sa mise en œuvre concrète. En réalité, la publication du texte de l'accord au journal officiel ne lui donne pas de force exécutoire. Mais Manuel Valls veut assurer et faire en sorte que même si le gouvernement Bayrou tombe et même si lui-même ne retrouve pas sa fonction de ministre des Outre-mer, il reste une trace tangible de l'accord signé le 12 juillet. Il n'en fallait pas plus pour énerver l'Union calédonienne qui, dans un langage fleuri, qualifie Manuel Valls de « prestidigitateur colonial au service de la Macronie ». L'UCCCAT dénonce les méthodes colonialistes et dilatoires de l'État français, mais surtout, elle indique qu'un texte dont les signataires sont inconnus et dont le contenu est flou ne peut servir de base à un report arbitraire des élections. Le refus du report des provinciales à juin 2026, c'est l'une des revendications de l'UCCCAT, et cela va être son combat dans les prochaines semaines. Elle relaie ainsi la revendication des députés LFI qui, dans une lettre au Premier ministre en date du 3 septembre, lui demande de convoquer les élections provinciales avant le 30 novembre 2025. Le problème, c'est qu'il faudra faire vite. La commission du Congrès a déjà donné son accord au report et le Congrès se prononcera lundi prochain, le 15 septembre, avant que le Sénat n'examine le texte, a priori le 23 septembre. Comme l'espère Manuel Valls, on avance malgré l'instabilité politique nationale, malgré l'inconnu de la majorité sur laquelle pourra s'appuyer le texte. On avance et de toute façon, dans l'état où se trouve la Nouvelle-Calédonie, faut qu'on avance parce que, comme le dit la chanson, on n'a plus assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, vous la retrouvez comme chaque semaine sur notre site internet. Elle est aussi à réécouter cet après-midi. Ce sera juste après le flash de 16h. On l'a vu au début de ce journal, Manuel Valls a donc confirmé la validation du versement de 26 milliards de francs à la Nouvelle-Calédonie. C'est la deuxième tranche du prêt de 120 milliards versé par l'État en fonction des réformes mises en œuvre. Et c'est une bonne nouvelle, nous a dit ce matin Christopher Gigès. Le membre du gouvernement en charge notamment de l'économie était notre invité à 7h30.
C'est une excellente nouvelle du lundi matin et surtout ça fait taire tous ceux qui prétendaient que sans adopter un plan de réforme, on toucherait quand même les 26 milliards parce que le plan de réforme qui a été adopté au Congrès de la Nouvelle-Calédonie nous a permis de débloquer cette somme. Et débloquer cette somme, ça permet tout simplement de permettre à la Nouvelle-Calédonie de tenir la barre, de tenir le coup, de pouvoir payer les investissements publics, de payer les différents éléments liés à la suite du chômage partiel. Et donc je crois que c'est une excellente nouvelle. Maintenant, on est surtout dans la phase de la construction du pacte, puisque c'est bien d'avoir des aides de l'État, il faut qu'on repense notre économie calédonienne en profondeur, qu'on ait ces grands investissements qui se construisent. Je vous l'ai dit, on attend d'avoir des financements de l'État comme ça a été fait, mais on va chercher aussi d'autres sources de financement et c'était l'objet du déplacement sur le sommet de l'Union européenne.
Christopher Gigès qui était effectivement en fin de semaine dernière avec des chefs d'entreprise à Fidji pour le premier forum commercial entre l'Union européenne et les pays et territoires du Pacifique. Il s'agissait de voir entre autres de quelles aides européennes la Calédonie et les territoires français du Pacifique pouvaient bénéficier.
On a eu en Nouvelle-Calédonie la facilité ces dernières années de nous tourner un peu facilement vers l'État. Aujourd'hui, on voit que les finances de l'État sont beaucoup moins importantes. Il faut qu'on arrive à être davantage professionnel. On a des sources de financement qui sont très importantes au niveau de l'Union européenne. Et c'est pour ça que c'était important de rencontrer les plus hauts représentants, notamment sur les partenariats internationaux. Il y a des enveloppes de 300 milliards d'euros qui sont disponibles sur un certain nombre de projets, et ce qui pourrait nous servir notamment sur la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Ça nous permet, à la fois de relancer l'économie calédonienne, c'est des nouvelles sources de financement qu'on n'allait pas chercher jusqu'à présent, mais surtout, ils permettent de diversifier en profondeur l'économie calédonienne, la transformer en profondeur et s'inscrire au final dans le pacte économique qui est prévu dans l'accord de Bougival, parce que l'accord de Bougival, il est important au niveau institutionnel. La partie économique prévoit ce pacte, mais il faut encore le détailler. Pour le détailler, il faut trouver des financements et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire.
Et la Nouvelle-Calédonie va déjà pouvoir se positionner sur plusieurs dossiers, a poursuivi Christopher Gigès.
L'Union européenne a accordé 4 milliards supplémentaires pour tous les projets liés à la transition maritime, écologique, digitale et alimentaire dans le Pacifique. Et la Calédonie va pouvoir prétendre sur les projets qu'elle présentera sur cette partie des 4 milliards. C'est en plus de ce que finançait déjà l'Europe sur la partie transition énergétique, mais on compte aller chercher beaucoup plus que ça et surtout on compte faire travailler nos entreprises et recréer de l'emploi en Nouvelle-Calédonie.
Ce forum commercial entre l'Union européenne et les pays et territoires du Pacifique qui se tenait donc à Fidji était le premier du genre. Un autre est programmé dans 2 ans. Ce serait bien que la Nouvelle-Calédonie puisse l'accueillir, nous a dit Christopher Gigès. Restons un instant à Fidji, où le Premier ministre Sitiveni Rambuka a annoncé ce matin l'ouverture d'une ambassade fidjienne à Jérusalem. Elle sera inaugurée le 17 septembre prochain. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Sitiveni Rambuka a indiqué que l'ouverture officielle de cette ambassade, la toute première à avoir été implantée en Israël, aura lieu en sa présence à Jérusalem, marquant ainsi ce qu'il a décrit comme une étape stratégique pour approfondir la coopération dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture, du commerce et de l'innovation. Une ambassade ne constitue pas une approbation sans réserve des politiques d'un autre pays, a-t-il toutefois précisé. C'est un pont qui permet aux îles Fidji de travailler directement avec leurs partenaires, a-t-il expliqué, de partager nos perspectives sur le Pacifique et de poursuivre une coopération concrète au bénéfice de notre population. L'ambassade, a-t-il poursuivi, approfondira les liens d'amitié et la coopération de longue date entre les îles Fidji et Israël. Il s'agit d'une étape décisive, un pont de coopération qui défend les intérêts des îles Fidji, soutient nos valeurs et favorise le dialogue et la paix, a-t-il conclu. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h45, Juliette Collet est la nouvelle Miss Nouvelle-Calédonie 2025. Elle est notre invitée dans un petit instant. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Dans un cadre idyllique à Lanzvata, le restaurant Le Fun vous invite à une expérience unique et conviviale. Découvrez le concept Steak Stone, viandes et poissons à cuire sur pierre chaude. Envie de fraîcheur? Craquez pour nos salades, suggestions de la semaine ou place à la carte. Le Fun, votre Steak Stone face à la mer, ouvert 7 jours sur 7. Info sur notre page Facebook Le Fun, réservation 28 67 08.
RRB, 11h, 13h. Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de ce journal, et je vous le disais, Juliette Collet est dans ce studio. Elle a été élue samedi soir Miss Nouvelle-Calédonie 2025. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et félicitations d'abord.
Merci beaucoup.
Et avec vous, Stella Levanao, qui est la présidente du comité d'organisation de Miss Nouvelle-Calédonie. Bonjour.
Bonjour.
Dans quel état d'esprit êtes-vous, Juliette Collet? Ça fait maintenant, un peu plus d'un jour que vous êtes la Miss Nouvelle-Calédonie 2025. Est-ce que vous êtes un petit peu redescendue de votre nuage?
Je pense pas. Je pense que je ne réalise pas encore tout à fait. Depuis cette soirée, en fait, tout s'est enchaîné. Et je savais pas ce qui allait m'attendre, ce qui allait se passer. Et j'enchaîne. Donc hier soir, j'étais au journal télévisé. Et aujourd'hui, avec vous, à la radio.
Il y a eu beaucoup d'émotions dans cette soirée samedi soir. Ça s'est senti pour vous, pour toutes les candidates. Mais vous particulièrement, vous avez vécu une soirée très, très émouvante. C'est ça?
Oui, oui, bien sûr. Je pense que moi particulièrement, peut-être pas. À mon avis, toutes les filles ont ressenti beaucoup d'émotions, que ce soit sur scène et dans le public. En tout cas, c'était une vraie fierté d'être avec ces 8 filles sur scène ce soir-là.
Et de quoi êtes-vous le plus fière aujourd'hui?
Alors, je suis fière d'énormément de choses. Je suis fière tout d'abord de venir de Nouvelle-Calédonie. Je suis fière de toutes ces cultures qui sont ici. J'en parle souvent, mais parce que c'est important. Je suis fière du spectacle qui a été fait lors de cette soirée avec toutes les filles, toutes les équipes qui étaient autour de nous. Fière des rencontres, fière du public, fière de cette bienveillance et de cet amour qui était vraiment présente là, ce soir-là. Voilà.
Ah, c'est déjà pas mal. Stella Levanao, donc, ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu d'élection de Miss Nouvelle-Calédonie. Cette édition 2025 s'est vraiment très très bien passée. Ça vous a fait plaisir, j'imagine, de voir l'engouement autour de cette élection qui a repris très très vite, en fait.
Oui, ça a été un challenge. Effectivement, on se posait encore la question, la conjoncture actuelle, est-ce que l'on organise? Et on a décidé que oui, parce que la motivation du comité, c'est que c'est un spectacle 100% local, avec des métiers. Je dis toujours, on a fait les badges, il y avait 144 badges. Donc ça veut dire que c'est le personnel qui est en coulisses, qui est souvent dans l'ombre. Mais sans eux, le spectacle n'aurait pas pu avoir lieu. Donc d'ailleurs, j'en profite pour les remercier, que ce soit les bénévoles, les prestataires, les partenaires. Et merci à tout le monde, parce qu'il y a eu une super belle énergie en plus. Donc, merci du fond du cœur. Et ces demoiselles qui ont eu le courage vraiment de mener ce spectacle avec les artistes. Et c'était la petite anecdote, c'est qu'à la répétition générale, cette année a eu lieu jeudi. Notre son et lumière étaient occupés le vendredi. Alors, c'est très bien, ça leur permet d'avoir une journée off. Et nous, on le sait, la répétition générale, c'est toujours très incertain, il y a des erreurs, mais ça leur permet. Mais par contre, le soir d'élection, c'est toujours super, quoi.
Et ça s'est très
même,
bien passé.
Même s'il y a des... Bon, Juliette, on en discutait, même s'il y a eu des petites erreurs, mais il y a tellement de sourires, tellement de joie, que ça, c'est même pas prioritaire, c'est tel sur scène, quoi. C'est tel sur scène.
Alors, que ça rend aussi humain.
Ça rend humain, tout à fait. Et toi qui es très humaine...
Alors Juliette Collet, vous voici Miss Nouvelle-Calédonie pour un an. Qu'est-ce que ça représente dans votre parcours? Parce que c'est une étape, c'est un petit à côté. Comment vous vivez cette aventure?
Alors non, pas du tout. Pour moi, c'est pas un petit à côté. Je compte me consacrer cette année à ces missions qui me seront confiées. Je pensais pas vivre ça un jour. Donc je suis très contente, très heureuse, très fière et j'espère ne pas décevoir. J'espère être à la hauteur. En tout cas, je ferai de mon mieux.
Et aujourd'hui, votre vie, c'est quoi? Vous avez fait des études, vous n'êtes pas encore sur le marché du travail. Comment vous envisagez la suite?
Alors oui, j'ai que 23 ans et j'ai fait un master en gestion des risques naturels. Donc j'ai fait 5 ans d'études. À la suite de ça, j'ai cherché du travail ici en Nouvelle-Calédonie. Je suis aussi secouriste. J'ai été nageur sauveteur à la ville de Nouméa. Avant ça, à la ville de Marseille, en France. Je teste beaucoup de choses. J'étais animatrice radio aussi, comme vous.
Très bien.
Bon, pas à votre niveau.
Et moi, je ne ferai jamais de concours, vous inquiétez pas. Donc.
Et j'adore découvrir et partager. Et c'est ce qui me plaît le plus. Et je pense que dans cette aventure, j'ai découvert énormément de choses que je ne connaissais pas du tout. Des milieux esthétiques, des milieux de porter des talons, porter du maquillage. Je le répète souvent, mais c'est difficile. Et j'ai adoré découvrir ces moments, tous ces aspects autour du monde de l'esthétique. Et j'en suis fière, j'ai adoré le partager aussi.
Et maintenant, c'est l'élection de Miss France dans un peu plus de 2 mois. Ça va être 2 mois très intenses. Vous allez vous préparer comment et qu'est-ce que vous attendez de ce concours de Miss France?
Alors, comment je vais me préparer, je ne sais pas du tout.
On
je sais
la
qu'on
question
va s'occuper de moi.
Stella,
je pense que
Stella
sera plus que moi sur ce sujet. Pour autant, je sais que les 3 derniers mois ont été intenses. On a eu une préparation complète et je pense que ça va continuer. Complète dans le sens où on a appris à danser, à se maquiller, à s'habiller, à marcher en talons. On a révisé la culture générale, des cours de communication avec Stella. Donc je pense que ça va continuer.
Et vous partirez anxieuse, plutôt heureuse déjà de tout ce qui a été fait et il se passera ce qui se passera le soir du concours Miss France?
Anxieuse, oui, toujours il y aura un petit stress parce que c'est un milieu que je ne connais pas du tout. La scène, c'est stressant, mais surtout fière de représenter le pays et j'espère que les Calédoniens me soutiendront et seront avec moi.
À coup sûr. Stella Levanao, qu'est-ce qui va se passer pour Juliette pendant les 2 mois qui viennent? Parce que, expliquez-lui quel va être son programme, en gros, c'est ça.
Alors déjà, elle est Miss Nouvelle-Calédonie et avec 3 dauphines. Donc ces dauphines sont aussi ambassadrices de la Nouvelle-Calédonie. Donc on va avoir des coachings beaucoup plus personnalisés. Elle aura toujours des cours de communication, toute l'équipe avec ses dauphines. C'est plus facile de faire un cours de communication à 4 que toute seule. Après, oui, on peut travailler toute seule. Des cours de culture générale, la culture générale européenne, hein, de l'hémisphère nord, parce que tout le monde a une culture générale. Des cours plus de catwalk, parce que je crois qu'elle a encore quelques progrès à réaliser en catwalk, de ce que j'ai cru comprendre. Et à savoir se maquiller et se coiffer toute seule. Donc là, on a vraiment Camille, l'équipe maquillage Océane, donc, qui sont très proches de notre Miss Nouvelle-Calédonie en plus. Donc elles sont super motivées. Mais effectivement, le challenge, c'est une Miss régionale doit savoir se préparer. Maquillage, coiffure. Donc on va préparer tout son trousseau. On vient d'un partenaire vêtements. Je pars à Paris pour anticiper aussi et rencontrer des partenaires à Paris au niveau de prêt-à-porter, plus tenue de soirée, parce que c'est difficile les tenues de soirée en Nouvelle-Calédonie. Et pouvoir rencontrer aussi la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Parce que la Maison de la Nouvelle-Calédonie vient toujours chercher notre Miss à l'aéroport et l'amène là où il faut l'emmener pour qu'elle ne soit pas toute seule, avec notre responsable, donc Nicolas, notre bénévole, notre secrétaire, qui va s'occuper de Juliette pendant sa semaine avant de rejoindre Miss France.
Juliette Collet, vous voilà devenue une VIP. Vous n'avez pas cette impression?
Non, pas du tout.
Quels sont les messages que vous avez reçus depuis samedi soir? Vous sentez qu'il y a de l'énergie autour de votre élection?
Oui, et j'ai reçu énormément de soutien, énormément de messages. Et quand j'ai démarré l'aventure, je ne pensais pas avoir autant de soutien. J'ai fait ça un petit peu dans mon coin, en cachette. Je sais que sur les réseaux sociaux, je faisais ce qui me plaisait. Et je ne pensais pas recevoir autant de soutien. Mon téléphone a explosé. Il était en feu et j'ai d'ailleurs répondu à... je pense 3% des messages qui sont sur mon téléphone et je prends le temps parfois. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, merci.
Ben écoutez, merci à vous d'être venu dans les studios de Radio Rythme Bleu. On vous souhaite bon courage pour répondre aux 97% de messages qui vous restent. On croise les doigts pour Miss France. On vous souhaite le plus beau parcours possible dans cette élection et puis beaucoup de bonheur pour cette année à venir.
Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir reçus. Et à bientôt.
À très bientôt, c'est la Levanao, merci beaucoup.
Merci bien.
À bientôt.
Au revoir.
Allez, la suite de ce journal avec les faits divers. Une voiturette a pris feu hier soir vers 20h45 au Receiving. Les pompiers sont intervenus. Selon les témoignages, les flammes ont pris au niveau du capot, ce qui laisse à penser qu'il s'agit d'un accident d'origine électrique, mais une enquête a été ouverte. En revanche, une voiture a été incendiée près de l'hippodrome 2 heures plus tard. Les pompiers sont intervenus pour circonscrire le sinistre. Des témoins ont vu des individus qui pourraient être les incendiaires prendre la fuite. Là encore, une enquête a été ouverte. La troisième session d'assises de l'année s'est ouverte, elle aussi. Le premier dossier sera jugé demain et mercredi. C'est une affaire de meurtre à Coutu en 2021. La première journée de cette session était traditionnellement consacrée, Nicolas Legrand, à la révision de la liste des jurés.
Oui, des citoyens tirés au sort sur la liste électorale générale pour rendre justice. Pendant les 3 prochaines semaines, ils pourront être amenés à se prononcer aux côtés des magistrats professionnels lors de l'un des 6 procès. Ils devront donc se forger leur intime conviction sur ces affaires criminelles et condamner ou non les accusés présents dans le box. Il s'agit d'une spécificité de la cour d'assises. Chaque citoyen tiré au sort a donc été contacté et a l'obligation de siéger, hormis quelques incompatibilités professionnelles d'âge ou de santé par exemple, et qu'ils ont eu à expliquer ce matin lors d'une demi-journée dédiée à mieux connaître le fonctionnement de l'institution judiciaire. Écoutez Claire Lannet, avocate générale.
C'est un devoir citoyen. D'ailleurs, pour les personnes qui ne se sont pas présentées, qui ont dit « moi, ça ne m'intéresse pas, je ne viens pas », la peine d'amende maximale prévue par les textes, qui est de 200 000 francs, a été prononcée. Ce qui veut dire que la révision de la liste, après ça, est complètement achevée et on peut commencer la session. À l'issue de ça, un petit film sur le rôle des jurés est projeté à l'ensemble des jurés. Puis... une intervention du président de la cour d'assises qui va expliquer son rôle, de l'avocat général, c'est-à-dire moi-même qui va expliquer également mon rôle, et d'un avocat qui intervient et qui a pour objectif de présenter le rôle à la fois de l'avocat de la défense et de l'avocat de la partie civile. Et à l'issue de ça, c'est une espèce de table ronde où les jurés peuvent poser des questions et nous y répondons. Et l'après-midi, après le déjeuner, consacré à la visite du centre pénitentiaire.
Et 6 affaires seront donc jugées lors de cette 3e session d'assises de l'année. La première, vous l'avez dit Jean-François, pour meurtre sur 2 jours. Une autre affaire de sang concerne des violences en réunion ayant entraîné une infirmité permanente. Et 4 affaires de viol, 2 sur des mineurs dans le cercle familial et 2 viols en réunion, dont 1 sur personne vulnérable.
Le Festival scolaire de littérature calédonienne s'est reparti pour une 2e édition. Le lancement s'est déroulé ce matin au collège de Caméré, Léana Colombo, en présence de la Maison du Livre, de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de représentants institutionnels.
Et oui, entre la province sud, la mairie de Nouméa et le vice-rectorat, il y avait du beau monde pour donner le top départ de ce festival où les livres sont à l'honneur. Porté par la Maison du Livre de Nouvelle-Calédonie, cet événement a pour but de valoriser la littérature calédonienne, favoriser le plaisir de lire dès le plus jeune âge, mais aussi lutter contre l'illettrisme, dont la semaine d'action a également débuté ce jour. Liliane Taourou, présidente de la Maison du Livre de Nouvelle-Calédonie, détaille les activités proposées.
Le principe du festival, c'est que les enseignants choisissent un livre qu'ils vont travailler avec les élèves, le faire lire. Donc cet exemplaire, ce sera à eux, c'est leur propre livre qu'ils vont ramener chez eux, qu'ils vont pouvoir garder, s'en souvenir, se souvenir de l'auteur qu'ils ont rencontré, etc. Donc ce livre, il va vraiment avoir une dimension, je pense, émotionnelle pendant la semaine où le festival se déroule dans leur établissement scolaire. C'est là qu'ils vont rencontrer les auteurs. Et puis on a aussi une cabane littéraire qui est implantée dans la cour de récréation des établissements scolaires. Et puis il y aura aussi des comédiens. Tout est fait pour que le rapport au livre devienne vraiment vivant et un sens aussi pour chaque élève concerné.
Après la première édition de l'an passé, 5 nouveaux lieux ont été sélectionnés. C'est donc le collège de Caméré qui débute ce festival. Suivra la semaine prochaine le lycée du Mont d'Or. Ensuite, du groupe scolaire Trouillot-Hibiscus à Rivière-Salée, des écoles Paul Duboisé et Colibri à Cathy-Ramona, pour finir dans les établissements de l'IFOU les 28 et 29 octobre. Les ateliers et les rencontres avec les auteurs débutent dès cet après-midi.
Et le lancement de ce festival s'est déroulé dans des conditions particulières puisque le collège de Caméré est privé depuis ce week-end d'électricité et d'Internet. C'est en raison des fortes pluies de ces derniers jours qui sont tombées et qui ont inondé le local où se trouve le transformateur électrique. Les cours sont toujours assurés, mais avec quelques adaptations, les réparations devraient durer jusqu'à mercredi. Et puis on parlait de ce festival scolaire de littérature calédonienne. C'était aussi le lancement aujourd'hui des Journées nationales d'action contre l'illettrisme 2025. Le collectif Illettrisme, créé pour l'occasion, a présenté ce matin les enjeux de la lutte contre l'illettrisme sur le territoire et les actions prévues pendant ces journées. Le premier rendez-vous est donné cet après-midi à 13h30. L'IFM Nouvelle-Calédonie et Livre Mon Ami organisent un kilomètre de lecture à la plage de Lansvata. Un moment participatif pour sensibiliser le grand public et promouvoir l'accès à la lecture pour tous. Avant une nouvelle pause et avant de passer à l'actualité en métropole et dans le monde, cette dernière information pratique pour signaler qu'il n'y a pas de téléconsultation dans les CMS du Nord cette semaine. Cela concerne les centres médico-sociaux de Bélep, de Wegwa, de Puebo, de Ponériouin, Touo, Vo, Kouawa et Canala. Les services sont suspendus jusqu'au 15 septembre en raison de la formation des médecins. Il est midi une et on se retrouve dans un instant pour évoquer l'actualité politique en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Caroline de Groisel vous invite à découvrir sa nouvelle collection intitulée « Variations en fantaisie couleur » à la galerie Artebello, rue Auguste Brun, expo jusqu'au jeudi 11 septembre, du mardi au samedi de 9h30 à 17h30. Variations en fantaisie couleur de Caroline de Groisel, ne passez pas à côté.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité politique en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Oui, elle s'accélère. Dans quelques heures, le Premier ministre engagera la confiance de son gouvernement devant les parlementaires. Ses chances de rester en poste sont évidemment plus que minces. Avant cette échéance, plusieurs partis ont fait leur rentrée officielle ce week-end, notamment les Républicains, réunis à Port-Marly, dans les Yvelines, autour de leur président, Bruno Retailleau. C'est le premier rendez-vous des Républicains de cette ampleur depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir et les militants croient au renouveau et à l'unité retrouvée du parti.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle ferveur. On voit voilà, que maintenant, il y a un chef, une idée, un parti et en avant.
Moi, j'ai soutenu Laurent Wauquiez à la présidence du parti. Il y a quand même une scission entre les pro-Retailleau et les pro-Wauquiez. Retrouver un peu d'unité, c'est quelque chose qui est très bien. Ouais.
Il n'y a pas de meilleur symbole que Bruno Retailleau pour incarner la droite en 2027. Il est là pour rassembler la famille.
Et de son côté, c'est dans son fief d'Hénin-Beaumont que Marine Le Pen faisait sa rentrée. La chef de file des députés RN à l'Assemblée nationale s'est livrée à un réquisitoire contre la politique d'Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Pour Marine Le Pen, la France se trouve dans un état de détresse démocratique, d'où l'urgence selon elle de l'alternance et donc d'une dissolution qui pourrait malgré tout lui faire perdre son siège de député. Bien que condamnée à une peine d'inéligibilité qu'elle conteste, la présidente du groupe RN à l'Assemblée promet de faire passer c'est son cas après celui du pays.
Je suis prête à sacrifier tous les mandats de la terre pour vous empêcher de massacrer les Français avec vos politiques absurdes et vos pseudo-économies injustes et toxiques.
Marine Le Pen se projette déjà dans l'après-Bayrou et pose ses conditions à Emmanuel Macron si le chef de l'État décidait de ne pas dissoudre l'Assemblée.
Si le président décide de nommer un nouveau Premier ministre, il faut que ce dernier ait bien conscience que nous resterons inlassablement les avocats des intérêts de la France et des Français. Sans prise en compte de ses aspirations, il sera lui aussi censuré.
Un moyen de mettre la pression au chef de l'État, vers qui tous les regards seront à nouveau tournés après la chute programmée de François Bayrou.
Et puis en marge de l'actualité des partis politiques, cette initiative de Philippe de Villiers, l'ancien secrétaire d'État, lance une pétition nationale pour obtenir un référendum sur l'immigration. Il souhaite réunir évidemment le plus de signatures possibles pour imposer le sujet aux élus. Laura Legault.
Philippe de Villiers, interrogé par le JDD, l'affirme impossible de compter sur la classe politique pour résoudre la crise migratoire. Seuls les Français, pour qui l'immigration est une préoccupation majeure, peuvent faire pression avec une solution, un référendum national. Pour y parvenir, Philippe de Villiers lance aujourd'hui une pétition en ligne pour forcer l'exécutif à prendre le problème à bras-le-corps et imposer le sujet à l'agenda. L'ancien secrétaire d'État reprend à son compte la stratégie adoptée par les militants de gauche pour s'opposer à la loi du plomb. Une pétition avait rassemblé plus de 2 millions de signatures. Le Conseil constitutionnel avait ensuite censuré une partie du texte législatif. La pétition de Philippe de Villiers a un objectif, rassembler un nombre de signataires massifs sur un sujet vital pour l'avenir du pays.
Toujours en métropole, la polémique n'est toujours pas retombée après la diffusion d'une vidéo montrant deux journalistes de France Inter, Thomas Legrand et Patrick Cohen, s'entretenir avec deux cadres du Parti Socialiste. Vidéo sur laquelle on entend Thomas Legrand dire, je cite, « On fait ce qu'il faut avec Patrick Cohen contre Rachida Dati ». Dernière réaction en date après la diffusion de cette vidéo, celle de Jordan Bardella qui voit dans cet échange une preuve supplémentaire de la partialité du service public en faveur de la gauche. Les deux journalistes ont porté plainte contre le journal L'Incorrect qui a publié la vidéo.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Elle concerne justement cette affaire. Après la diffusion de cette vidéo montrant deux journalistes tenir des propos litigieux visant la ministre de la Culture, deux journalistes de France Inter, devant les responsables du PS, êtes-vous favorable à la création d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur la neutralité de l'audiovisuel public ? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. L'actualité à l'étranger, Vladimir Poutine ne semble pas prêt à la paix. Depuis le début du conflit en Ukraine, il y a 3 ans et demi maintenant, la Russie a mené ces dernières 24 heures sa plus importante attaque aérienne. 800 drones ont été envoyés sur le territoire ukrainien. Ils ont fait 5 morts, dont 2 à Kiev, où le siège du gouvernement a même été endommagé. Charles Bouchin pour Europe 1.
L'attaque d'une ampleur inédite avait pour but de saturer la défense anti-aérienne de l'Ukraine. Elle a visé plusieurs régions, dont Kiev. Des immeubles résidentiels de la capitale ont été endommagés. Plus inhabituel, le quartier gouvernemental jusque-là épargné a lui aussi été touché. Le toit du bâtiment abritant le Conseil des ministres situé à 200 mètres de la résidence présidentielle a pris feu. Tout l'été, la Russie a intensifié ses frappes sur l'Ukraine, notamment dans le but de prendre possession des régions de Lugansk et de Donetsk. Mais selon l'historienne Galia Ackermann, les offensives russes n'ont pas eu l'effet escompté.
Ça n'a pas brisé la résistance ukrainienne, ça n'a pas permis de récupérer aucune des régions qui ont été annexées, bien que partiellement occupées. Maintenant, il reste à terroriser l'Ukraine, donc je pense que c'est une réaction peut-être de rage froide.
Les efforts de ces dernières semaines pour trouver une issue au conflit et un accord de paix semblent désormais bien loin. Emmanuel Macron reproche à la Russie de s'enfermer toujours un peu plus dans une logique de guerre et de terreur.
La ferveur de la jeunesse à Rome, où le pape Léon XIV, lors d'une cérémonie à laquelle 80 000 personnes ont assisté, place Saint-Pierre, a canonisé deux figures qui parlent à la jeunesse. Carlo Acutis, né en 1991, est mort à l'âge de 15 ans, surnommé le saint d'Internet, pour avoir évangélisé sur les réseaux sociaux, et Pier Giorgio Frassati, surnommé lui l'alpiniste de Dieu. Ce jeune homme, issu d'un milieu bourgeois, s'est engagé auprès des plus démunis avant de s'opposer au fascisme dans les années 20. Dans son homélie, le pape Léon XIV a exhorté les jeunes à ne pas gaspiller leur vie, mais plutôt à l'ancrer dans le projet de Dieu, en prenant exemple sur les deux nouveaux saints.
Il représente un appel adressé à nous tous, surtout aux jeunes, ne pas gâcher sa vie, mais la tourner vers les cieux pour en faire un chef-d'œuvre.
Voilà un extrait du message du pape Léon XIV aux jeunes lors de cette cérémonie de canonisation qui a eu lieu la nuit dernière pour nous à Rome. Midi et 9 minutes, c'est la fin de ce journal.